Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Nous vous retrouvons cette semaine. Vous pouvez également nous retrouver en kiosque avec un numéro dont le dossier est consacré au Sahel, la présence française au Sahel, le Tchad, et puis également les suites militaires et économiques. Comme à chaque fois également dans les dossiers, vous pouvez retrouver la rubrique Enjeux ainsi que les chroniqueurs de Conflit. Et puis Conflit se retrouve aussi sur notre site internet revueconflit.com. où vous pouvez vous abonner, abonner vos proches, et puis retrouver les anciens numéros en format numérique et en format papier. Vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs, donc en nous achetant dans les kiosques ou en vous abonnant, vous permettez à la revue de se développer et à la revue également de vous proposer ses contenus en accès libre que sont ses émissions podcast. Alors nous fêtons ces semaines les 10 ans de Conflit, puisque Conflit a été créé en mars 2014, et dès l'origine de Conflit, on a voulu montrer que la géopolitique était diverse, variée. Il y a évidemment les questions de relations internationales, mais également la question des symboles. Ça, c'est notamment un apport important d'Yves Lacoste, grand géographe français, que d'avoir étudié la question des symboles, la question des représentations. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui à travers la question du vêtement. Vous allez le voir, si le sujet peut paraître futile de prime abord, il ne l'est absolument pas. Le vêtement est un langage, le vêtement dit beaucoup à la fois des évolutions technologiques, industrielles, mais également des évolutions culturelles et politiques. Et donc c'est ce que nous allons aborder au cours de cette émission avec mes deux invités.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Alors nous sommes installés dans votre atelier à Paris, puisque vous êtes tailleur, vous produisez des vêtements assez originaux, assez marqués, particuliers. Alors nous allons mettre sur le site de Conflit l'adresse vers votre site internet pour que nos auditeurs puissent voir à la fois ce que vous produisez et puis également voir où se trouve votre atelier, s'ils veulent venir vous découvrir. Peut-être en quelques mots d'abord, avant d'aborder la question de l'histoire du vêtement au XXe siècle, comment est né l'atelier que vous dirigez maintenant, et quelle est la philosophie que vous avez voulu donner aux vêtements, puisque vous faites des vêtements, je dirais, à la fois classiques, vêtements masculins classiques, veste, pantalon, chemise, donc classiques dans la forme, un peu moins classiques dans l'esprit.
Oui, effectivement. Bonjour, je suis Francesco, du coup, le deuxième frère qui compose Fratelli Mocchia di Coggiola, avec le nom le plus compliqué de la France, je pense, pour l'atelier de tailleur.
D'Italie aussi.
Et d'Italie aussi. Alors, comment on a commencé ce projet? Le projet, en vrai, il a commencé dans une manière très artistique, effectivement, parce que c'est un peu les rencontres de mon travail de tailleur et de designer avec le travail de mon frère qui est historien de la mode mais aussi illustrateur. Donc la première étape de notre travail, ça a été d'imprimer ces dessins sur des chemises en soie et du coup créer des pièces qui s'était pas lié directement à la mode, mais qui s'était plutôt lié à la reproduction d'art. Du coup, avec des pièces qui étaient numérotées et...
En série limitée.
En série limitée, exactement. Et à tout ça, on a après rajouté tout ce qui est le monde du sur-mesure, pour la simple raison qu'on aime s'habiller classique, on aime s'habiller sur-mesure, et du coup, pourquoi pas les proposer aussi à notre clientèle, à notre ami, à notre cercle.
Et tout ça s'est passé il y a 6 ans, je pense.
Fin 2017, début 2018.
Voilà, et on avait commencé en effet avec les chemises. Maintenant, il faut dire que tous les dessins qu'à l'époque j'avais réalisés sans forcément réfléchir à un usage décoratif, sont devenus aussi partie intégrante de l'univers des Fratelli Mocchia di Coggiola, avec des doublures imprimées qu'on vend volontiers à nos clients, qu'ils aiment bien justement avoir une touche un peu personnalisée à l'intérieur d'une veste plutôt que derrière un gilet, des pochettes, des foulards, etc., etc.
Donc c'est l'association entre l'art tailleur et puis le dessin, le design, et puis également une partie histoire de la mode. On va y revenir d'ailleurs dans les créations que vous faites. Enfin, ce sont des vêtements tout à fait portable dans la vie quotidienne, oui, mais avec effectivement une touche, une tonalité qui rappelle beaucoup d'éléments de l'histoire du vêtement masculin au cours des décennies écoulées.
C'est vrai qu'on est passionné par l'histoire de la mode, Moi, personnellement, j'en ai fait une raison de vie puisque j'ai publié à ce sujet des articles, des livres, j'ai donné des conférences. Et Francesco, il a étudié dans un institut de mode.
Dans l'Institut de mode, ça a été effectivement tes écrits qui m'ont après un peu inspiré et formé aussi sur l'histoire du vêtement masculin.
Donc c'est vrai que
Donc,
quand on réfléchit à une collection, là où j'utilise un langage qui est très fashion, mais c'est pour nous faire comprendre, quand on réfléchit à une collection, on a des références historiques et littéraires, cinématographiques aussi, qui rendent nos produits, enfin nos propositions plutôt un peu plus excentriques et peut-être un peu plus passionnantes pour les initiés.
alors avant d'aborder l'histoire du vêtement au XXe siècle, je voudrais revenir sur les 20 dernières années, 2000, 2024. J'ai l'impression, mais c'est peut-être mon regard extérieur, et je pense que je vous pose la question parce que vous êtes directement dans ce domaine, je dirais, économique, domaine du vêtement masculin, l'impression qu'il y a une sorte de renouveau, donc à la fois le port du costume, le port de la cravate qui est de moins en moins important. D'ailleurs, quand on regarde la télévision des 90, on voit de très beaux costumes à la télévision. Aujourd'hui, ça a complètement disparu, alors que même le présentateur de jeux à la télévision était très bien
Oui,
habillé.
oui.
Aujourd'hui, c'est à peu près le niveau zéro. Mais dans le même temps, la naissance de différentes maisons, un peu comme la vôtre, avec des esprits différents, mais qui apparaissent à Paris ou en France, qui font des vêtements qu'on appelle en demi-mesure ou en sur-mesure. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, me semble-t-il.
Ben, c'est effectivement, on a en sorte de, enfin, on peut diviser l'histoire en deux parties sur les dernières années. Il y a eu une tendance à revenir au sportswear dans tout ce qui est début d'année 2000 jusqu'en 2013 à peu près. Et aussi, on voit dans les bureaux de plus en plus les gens ils s'habillent moins classiques. Du coup, les vêtements ils deviennent de moins en moins un uniforme, ce qui était avant. Du coup, on va dire qu'il y a une certaine liberté de s'habiller plus sportif au bureau. Et du coup, à partir de celle-là, ça donne aussi au costume une nouvelle histoire. Ça donne une nouvelle envie au costume. Qui veut s'habiller en costume, c'est plutôt un choix, plus qu'une obligation. Du coup, il y a effectivement un retour au costume grâce aussi aux techniques industrielles nouvelles qui donne la possibilité à qui veut mettre le costume de pouvoir construire quelque chose qu'il aime et pas qu'il a l'obligation de mettre, je trouve.
Oui, ça c'est une partie importante en effet de l'histoire récente. Après, si on regarde un peu plus en arrière que le 2000 ou le 2010, l'histoire du vêtement, que ce soit féminin ou masculin, ça a toujours eu des hauts et des bas, disons des parties où les volumes étaient plus importants, d'autres décennies où les gens avaient plutôt la tendance à se dépouiller. Il y a ce que vous avez évoqué peut-être tout à l'heure. Il y a aussi un changement d'icône, un changement d'élite qui fait en sorte que l'exemple donné pour ce qui est être les bons, ce qui est être les beaux, ce qui est être les mieux est complètement différente que dans l'univers classique. Donc, quand on a l'impression qu'à la télévision, un présentateur, aujourd'hui, il est au niveau zéro de l'élégance, il se peut que pour lui, il trouve d'être au niveau maximal. Puisqu'il est entré dans un autre paradigme, qui n'est plus notre paradigme de l'élégance classique, celui de la mode. Celui de la mode, on le sait, il a des vies très brefs. Oscar Wilde disait, la mode est tellement laide qu'on doit la changer chaque 6 mois. Et en ce moment, le paradigme est celui-là. Donc les médias imposent aux gens un univers de beauté qui ne correspond pas à celui de notre goût. Je crois que cette renouveau d'intérêt vers l'univers classique est un effet de mode aussi, peut-être, mais ça donne lieu à une redécouverte des valeurs et des traditions qui avaient été un peu oubliées dans les dernières 40 ans, je pense. Et symptomatique de cela est voir une grosse partie de nos clients qui sont des jeunes gens. Donc ce n'est pas des gens, justement, comme disait mon frère, qui s'habillent par obligation. Mais c'est des gens qui viennent parce qu'ils ont envie de le faire. Et ça, c'est
S'habille par
extraordinaire, en
plaisir.
fait.
Oui. On
Moi,
peut.
je trouve ça voire plus intéressant quand quelqu'un vient parce qu'il a envie de porter un costume plutôt qu'il dit, ah, je dois le mettre parce que je travaille comme, je sais pas, notaire ou avocat, etc.
Faut dire aussi que normalement, qu'il le met encore pour obligation, normalement, il va choisir un costume qui va être très rentable à niveau prix. Et du coup, forcément, il va plutôt sur un prêt-à-porter plus ou moins de luxe, mais un prêt-à-porter qui soit plus vite, plus facile et plus portable, sans avoir des regards ou des jugements d'autres personnes.
Alors, si on prend l'histoire du vêtement masculin au cours du siècle écoulé, les pièces fondamentales ont assez peu changé. La veste, le pantalon, la cravate, la chemise. Alors, la chemise a connu, elle, une évolution. C'était longtemps un vêtement un sous-vêtement, un peu un t-shirt. Et maintenant, en revanche, c'est un vêtement de survêtement, voire même, la chemise se montre. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques décennies.
Il ne faut pas oublier que la chemise, encore du 18e siècle, faisait aussi les rôles de la culotte. Donc c'est pour ça que c'était un sous-vêtement, puisqu'on ne portait pas de culotte, c'était la chemise qui couvrait les parties intimes. Donc,
Non, beaucoup plus longue.
ah oui, beaucoup plus longue, et on l'a façonnée autour des cuisses pour pouvoir se couvrir entièrement avec.
Il y avait même des chemises qui avaient une sorte de raccroche comme un body,
Ça c'est
mais
après,
après.
oui, ça c'est après. Et oui, la chemise, elle suit son propre évolution aussi, qui est plus lente, justement, étant un sous-vêtement à la base, qui est beaucoup plus lente que les costumes, que lui, il est visible. Au 19e, début 19e, on avait encore des chemises qui étaient coupées comme au 18e siècle, c'est-à-dire très très larges, par exemple. Et dans les années 20, où les vêtements, 1900, ben, les vêtements pour hommes deviennent plus étriqués, plus près du corps, la chemise est encore 19e, c'est-à-dire avec des manches très très larges, avec des manchettes très très épaisses. Et tout ça, il fallait l'engouffrer, il fallait le plisser à l'intérieur des manches étroites de costumes qui étaient à la mode à l'époque. Donc, toute pièce du vestiaire masculin change avec son propre rythme. Mais de la chemise, de toute façon, si vous réfléchissez, on voit d'habitude que les cols et les poignets. Donc c'est ça, en fait, après qu'il donne les styles.
On pourrait dire peut-être que les fondamentaux du vêtement masculin, ils commencent à être des pièces fondamentales déjà au XVIIIe siècle, avec des formes différentes, mais on avait déjà une veste, une gilet et un pantalon, qui à l'époque c'était une braguette, mais
Non, c'était une
une
culotte.
culotte, pardon.
Oui, la
Une
culotte à
culotte,
la française.
exactement.
Il y a eu un apport aussi qui est le vestiaire militaire, qui lui a déteint dans le vestiaire civil. Alors, peut-être une des pièces emblématiques, c'est le trench coat qui est inventé dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et que maintenant on porte à la ville. Il y a le caban également. Donc il y a eu beaucoup de pièces militaires qui ont quitté le monde militaire.
La cravate elle-même, selon la légende, elle a été inventée par un régiment de Croates qui était une instance, bon, qui venait en France. Et leur façon de dénouer l'écharpe autour du cou avait influencé la cour de Louis XIII, Louis XIV,
Louis
je pense
XIII,
qu'elle est
oui, tout à
entre les deux,
fait.
Louis XIII, pour ensuite en fait inventer ce que aujourd'hui on appelle les jabots, mais qu'à l'époque était une partie intégrante de la cravate. De la chemise et la cravate. On a aussi tout ce qui est croisé, veste croisée, tous les vêtements croisés viennent du monde militaire également. Il me semble que là, on parle plutôt de la fin du 18e siècle, justement pour se couvrir plus puisqu'il fait froid. On avait inventé les uniformes croisés pour avoir plus de couches de tissu. Et petit à petit, cela est passé au manteau civil et ensuite au gilet et aux vestes.
D'ailleurs, à côté de nous, une de vos créations donc, est un manteau en laine rouge. Je crois qu'il est croisé, enfin là il est ouvert,
C'est
mais voilà.
croisé, ouais.
Et d'inspiration aussi un peu militaire.
Il a une inspiration mélangée, dans le sens qu'il a, on mélange effectivement l'inspiration militaire et des chasses. Les couleurs rouges dans un univers militaire, c'est assez facile à comprendre pourquoi on fait des uniformes rouges, parce que le rouge, c'est la même couleur du sang en bataille, et du coup on va pas avoir du mal à détacher les couleurs même du manteau. Alors sur la chasse, là c'est encore différent parce que les couleurs rouges c'était justement pour se faire repérer dans le bois lorsqu'on est en train de chasser et pourquoi se prendre les balles de quelques autres
Chasseur.
chasseurs,
Et c'est un
effectivement.
tissu aussi particulièrement, c'est pas un
Les
tissu qui...
tissus, c'est un tissu qui vient de chez Abraham Moon, qui effectivement, ils produisent encore des tissus pour les militaires anglais. Et c'est un Melton 700 grammes.
C'est que de la laine?
C'est que de la laine, exactement,
Dingue.
sauf la partie derrière du col qui est en velours de coton. Et oui, c'est une lainage très, très...
épais,
épais, c'est vrai.
dense. Ce genre de grammages sont, ils ne viennent que du monde militaire. Parce que dans les civils, on n'a objectivement aucune nécessité d'utiliser
Parce que là, il faut que ça
des
protège
tissus.
de l'eau et de l'humidité quand on est dans les
Exactement.
tranchées, quand on est
Et il
Exactement.
faut qu'il tienne aussi pendant longtemps. Il faut
Oui.
qu'il soit résistant à tous les mouvements extrêmes qu'on peut
Je
faire.
te conseille de se faire tirer dessus quand même avec.
Oui. Et dans le vêtement, il y a le rôle joué par l'Angleterre. Alors on retient le prince de Galles qui a toujours été un peu l'arbitre des élégances, même l'actuel roi Charles est quand même par contre renommé pour être un homme élégant. L'Angleterre a imposé en quelque sorte ses modes sur le reste de l'Europe.
Oui, tout à fait. Je présume que ça vient du fait que l'Angleterre avait une puissance militaire, une puissance politique assez importante quand toute cette mode anglaise s'est développée, surtout au cours du 19e siècle. L'Italie, quant à elle, est arrivée assez tard, parce que c'est surtout avec les booms économiques des années fin 50, 1950, juste après la guerre, en gros. L'Italie a commencé à imposer aussi son propre style, qui est celui un peu anti-anglais, un peu plus soft, plus versatile, plus confortable, etc. Plus adapté aussi au climat italien, il faut dire. Et avec une brève parenthèse française dans les années 20 et 30, pas spécialement avec des grands noms de couturiers pour hommes, puisqu'ils n'existaient pas vraiment, mais avec un goût français très prononcé, qui s'est vite estompé en fait pour se diluer entre Italie et Angleterre. Mais c'est vrai que le prince de Galles, traditionnellement, de toute façon, la famille anglaise, les femmes durent beaucoup plus longtemps que les hommes. Du coup, c'est toujours des pauvres garçons qui attendent leur tour très patiemment jusqu'à un certain âge. Et c'était les fameux Bertie, les fils de la reine Victoria, qui est resté prince de Galles pendant, enfin, je sais pas, 30 ans, quelque chose comme ça. Et lui, c'était défini l'arbitre des élégances à l'époque. Il paraît qu'il a inventé les pantalons à revers. Il paraît qu'il a lancé la mode de déboutonner les dernières boutons du gilet.
Même les tissus Prince de Galles, à la base c'était un Glenn sur lequel lui il a décidé de faire
Il
mettre
paraît, oui.
un petit carré de couleur. À la base c'était le rouge.
On lui...
Et après
On...
on l'a fait en bleu
On,
aussi.
on, lui, on lui donne aussi la paternité de la plie au milieu du pantalon.
Pardon?
Parce qu'il paraît qu'il s'est baladé dans la nature et ses pantalons se sont abîmés. Alors il est rentré tout de suite chez les premiers tailleurs qu'il a trouvés dans un petit village. Et dans la hâte de faire un pantalon rapidement, ils n'ont pas repassé les tissus qui étaient pliés. Alors il est resté la plie, les tailleurs ont choisi de garder la plie. Bref, c'est une histoire un peu absurde peut-être. Mais ça, c'est les...
Ça rentre dans l'imaginaire collectif.
C'est ça. Et après lui, il y a eu sa descendance et ils ont tenu à garder une certaine tradition d'élégance familiale masculine qui est très marquée en effet. Et dont le dernier roi d'Angleterre, il n'est que peut-être un pâle exemple vis-à-vis de ses ancêtres.
Il y a aussi le rôle des clubs. Le blazer, par exemple, est né dans les clubs anglais, notamment les clubs de sport.
C'est bien vrai. Là aussi, je pense que c'est pour un souci de corporation de se sentir unis par quelque chose. C'est dans les universités, durant les compétitions sportives. Je suis moins sûr par rapport à l'histoire du blazer. Je présume que ça vient aussi du monde militaire et du fait qu'au bout de moment, on enlève l'uniforme des galas pour en mettre une qui est moins formelle. Et les blazers, probablement, ça découle de ça aussi, sur une nécessité de se reconnaître dans un corps civil.
Et aussi la nécessité de manque de vêtements directement après la guerre dans la ville, de pouvoir utiliser la veste de l'uniforme militaire avec un pantalon de différentes couleurs.
C'est sûr qu'après la Deuxième
On
Guerre
parle de ça
mondiale, ça a
aussi.
joué aussi la pénurie en général des
C'est
tissus.
notamment le cas du chino, donc ces pantalons de coton, donc enfin vous confirmerez, mais on dit que ce sont les stocks de surplus américains qui ont servi après à faire ces pantalons.
C'est possible, je ne suis pas au
Ouais.
courant.
Ouais.
Ça me manque.
Il y a un autre pôle qui a joué un rôle important aussi dans la mode, c'est le pôle américain, ce qu'on appelle le style Ivy League, donc
Ouais.
ces universités très prestigieuses de la côte est américaine, dont Joe Biden d'ailleurs en est le dernier représentant. Quand on voit comment Joe Biden est vêtu, c'est vraiment l'américain typique des années 50. Il est toujours extrêmement élégant, la pochette blanche parfaitement pliée. On a l'impression que c'est le jeune étudiant qu'il était à l'époque d'Harry Truman ou de Eisenhower.
C'est vrai, hein.
Ralph Lauren, il a construit un énorme univers de marques justement à partir de ça.
Les Américains
Voilà.
sont très bien
Ouais.
pour faire de l'argent tout de suite avec quoi que ce soit. Forcément, ils arrivent à monétiser même le style des
Mais
universités.
c'est vrai que c'est un style qui est en train de revenir petit à petit à la mode, même dans le sur-mesure. On a redécouverte de tout ce qui était les codes de Ivy League, de Preppy, etc., des années 80, 90, et qui sont en train de revenir. On peut regarder, il y a pas mal d'accounts Instagram d'aujourd'hui qui s'inspirent de ce monde, et ils recommencent à utiliser des tweeds très épais, des whipcords pour confectionner les pantalons, des cravates à motifs, des chemises Oxford, en contraste de couleurs sur le col.
Personnellement, je pense que ce n'est jamais passé des modes. Si des modes, on peut parler. Le style de l'Ivy League a toujours été quelque chose parce qu'on parle de, on parle d'un petit groupe, relativement petit groupe de personnes qui se fréquentent entre eux, qu'on sait déjà dès qu'ils ont 18 ans qu'ils vont gérer une état plutôt qu'un organisme, n'importe quel genre d'organisme
Mais
important.
justement, je pense qu'il a et il est en train de se séparer, comment dire, l'origine de ce style,
Ah oui,
avec
mais
simplement
ça c'est depuis longtemps.
le sport.
Tout le monde veut imiter en fait les grands, ceux qui sont être. Tout le monde veut faire semblant, éventuellement, ou faire soupçonner son interlocuteur d'être parti d'un club, d'être parti
Ah bah ça, à partir de
d'une
la cour de
clique.
Versailles,
En
on l'a
général,
toujours
c'est
fait.
cela,
Il y a Simmel qui avait parlé,
oui.
le sociologue, de le phénomène à cascade, comme quoi un groupe, et dans ces cas-là, la cour de Versailles, il décide certains goûts, certains modes, et après, qui est en bas, il essaye de copier, de émuler qui est au pouvoir. Et dès qu'ils arrivent à l'émuler, bah, le pouvoir, il change de goût. On dit qu'il a, ça commence un peu, du coup, cette changement de la mode, justement, pour pas ressembler au peuple.
Il y a un autre aspect également autour du vêtement, c'est le fait que le vêtement occidental a conquis le monde, alors de par la colonisation, de par aussi la puissance du monde occidental, mais on voit des chefs d'État africains parfaitement vêtus, dont d'ailleurs la plupart, je pense notamment au président du Congo, du Congo Kinshasa, qui s'habille chez les meilleurs tailleurs français.
Ou pas chez Smalto, je
Je
pense.
pense que c'est
C'est
Malakoff,
possible, au
ouais,
Malto ou
il me
Chifonelli,
semble.
enfin l'un ou l'autre, peut-être même les deux, parce qu'il a pas mal de costumes, donc peut-être il fait les deux. Le président chinois Xi Jinping, qui a abandonné la veste col Mao pour être habillé lui aussi avec le costume occidental. Donc il y a cette diffusion du vêtement masculin européen au reste du monde. C'est vrai, et on n'oubliera pas les Japons aussi. Les
Oui.
Japonais, ils ont développé un amour extraordinaire pour le vêtement occidental. Tant que le dernier livre de Rose Calan, qui s'appelait We Are Dandy, il est entièrement ou quasiment entièrement dédié aux élégants japonais qui s'habillent en costume cravate et qui appliquent les règles d'une façon maniacale. Il la résulte parfait, éventuellement.
Oui, d'ailleurs, ils ont tellement étudié les codes occidentaux qui, les tailleurs japonais, ils ont une technique tellement perfectionnée et précise qui arrive à sortir des costumes bespoke d'une précision incroyable. Encore beaucoup plus précis qui les tailleurs occidentaux. Parfois trop précis.
Peut-être les charmes de l'ancienne Europe et du rôle géopolitique qu'on a pu avoir en certains moments qui impressionne encore les restes du monde.
Alors vous, Massimiliano, vous êtes très centré sur les années 1920-1930, notamment dans les vêtements que vous portez, qui sont fortement inspirés de cette période-là. Quelles sont les caractéristiques de cette période et qu'est-ce qui a fait aussi un petit peu un des temps forts de la mode masculine?
Personnellement, ce que j'aime dans cette époque, c'est l'effervescence, l'insouciance, l'envie de s'amuser, de faire la fête qui était très particulière à cette époque d'entre-deux-guerres et on retrouvera plus jamais probablement. Mais c'est une époque très jeune où justement ceux qui ont survécu à la guerre ont envie de revenir à la vie, où en effet il y a aussi une certaine nihilisme, peut-être parce qu'ils ont vu leurs amis mourir dans les tranchées. Alors il y a aussi une envie de vivre le présent à tout prix. Et tout cela, par contre, il est combiné avec un amour intime et viscéral pour l'élégance masculine et féminine aussi, bien sûr. Si on pense à la fameuse tournée des Grands-Ducs, c'est-à-dire ces jeunes qui sortaient presque chaque soir à Montmartre ou Montparnasse ou ailleurs, ils étaient en frac ou en smoking, chaque jour ils variaient, chaque soir, pardon, ils mettaient l'un ou l'autre selon la compagnie. Moi, je trouve ça très beau parce qu'il y a une certaine une laisser-aller de mœurs qui va avec une extrême apparent conservatorisme de la garde-robe. Et c'est cette contraste qui m'amuse beaucoup.
Vous parlez du frac et du smoking. Là, c'est un autre aspect aussi de l'évolution du costume. C'est que jusque dans les années 1950-60, on a un costume de la journée, un costume du soir, notamment quand on sort. Alors, les hommes, les femmes aussi, les femmes mettent une robe et les hommes mettent. Alors, l'habit a été abandonné après la Deuxième Guerre mondiale,
En France,
oui,
peut-être,
mais
mais.
le smoking, lui, est la tenue du soir.
Il y avait même des costumes pour les matins, si vous voulez. Les matins, par exemple, on n'était censé pas porter les revers au pantalon. Donc on avait peut-être un double pantalon pour certains costumes qu'on pouvait varier pour les mettre les matins et les mêmes l'après-midi en changeant les pantalons. Et puis il y avait les costumes du soir. Puis il y avait aussi, il y a encore des costumes pour certaines occasions particulières. Donc c'est vrai, on sortait en frac les soirs si l'occasion le demandait, mais on pouvait sortir en journée avec les fracs et les gilets noirs s'il s'agissait d'un mariage ou d'une célébration quelconque religieuse si on était en Italie par exemple. On avait la jaquette aussi, quelque chose qui était presque complètement abandonné. Mais on parle d'abandon, nous parce qu'on est ici en France, mais si on va en Angleterre ou dans certains autres pays, c'est pas vrai, c'est pas été forcément abandonné dans certains milieux, dans certains contextes. Il est sûr que dans un pays qui caresse des idéaux démocratiques, l'élitisme vestimentaire ou pas, il est pas démise, c'est mal vu. Donc forcément, on a des présidents qui s'habillent mal, je ne mets jamais des guillemets, hein, mais. Puisqu'il s'y serait trop bien habillé, il serait fortement critiqué par une ancienne gauche conservatrice, selon moi conservatrice, de certaines valeurs qui s'appellent au 68, qui n'ont presque plus aucune raison d'être aujourd'hui. Mais peut-être je suis en train d'aller un peu trop loin. De toute façon.
Bah, c'est vrai qu'il y a entre tous les vêtements un peu plus formels qu'on utilisait avant, c'est qui reste encore beaucoup aujourd'hui, c'est le smoking ou tuxedo, comme on dit en Angleterre
En Amérique.
et en Amérique. Ouais.
Le smoking, il apparaît à quel moment dans l'histoire du vêtement? C'est début 20e siècle?
Non, c'est. Alors, je vais faire une conférence à ce sujet, mais alors là, la date exacte.
À peu près à quelques décennies
Parce
près, mais.
qu'en théorie, il y a une date
Ouais.
exacte
Il y avait
aussi.
deux théories, non, deux histoires sur l'invention du smoking.
Il y en a une qui est fausse
Ouais,
et une qui est vraie.
c'est ça.
La théorie fausse veut qu'on a simplement, durant un dîner, les princes de Galles, il n'en pouvait plus de ses queues, les queues de son queue de pie, et il les a coupées. C'est qu'en réalité, si vous y pensez, si vous essayez de faire la même chose, ce que je vous déconseille de faire, mais si vous essayez de faire la même chose, vous obtiendrez un Spencer, vous obtiendrez pas un smoking. Il avait simplement voulu donner hausser les tons d'un costume des villes normal, en rajoutant de la soie sur les revers, pour recevoir ses amis, surtout des hommes, dans un de ses domaines de campagne. Puisqu'il trouvait que c'était pas nécessaire de se mettre en grand tralala s'il n'y avait pas de dames. Et s'ils se retrouvaient entre eux, ils ont commencé à se dire, mais c'est un peu comme aller au club, c'est pas la peine de mettre les queues, parce qu'en plus il faut tout amidonner, c'est tout un. Voilà. Alors le prince de Galles lui-même, il a dit, ok, on va faire une veste noire normale qu'on portera comme si c'était un frac. D'ailleurs, à l'époque, on la mettait encore avec les papillons blancs. Les papillons noirs est arrivé un peu plus tard pour différencier les smokings du frac, pour montrer qu'il y avait voilà, une différence sociale aussi, et c'est au cours des années 10. De toute façon, c'est les Américains qui ont tout de suite introduit dans la société les smokings, puisqu'ils n'avaient pas un cours dans lequel ils portaient, mais ils ont vu ça en Angleterre et ils sont revenus dans les clubs. Et ils se sont dit, on va faire la même chose entre nous. Et ils ont commencé à sortir au restaurant aussi, avec les smokings. C'est qu'avant, on ne faisait pas. On n'allait pas vraiment au restaurant. Si on sortait, c'était pour des réceptions privées. Les restaurants, il y en avait deux ou trois à New York. Donc on a commencé à s'habiller bien pour y aller. Et ça a fait une révolution. Tout le monde, à un moment donné, voulait mettre les smokings.
Il y a aussi un deuxième ancêtre du smoking, la veste de fumée,
Fumeur.
La veste de
voilà, de
fumoir.
fumoir, qui du coup elle était, on pourrait dire, assez similaire à un smoking au 19e siècle, qui on utilisait justement pour le moment après le dîner, pour fumer, justement. Et du coup on changeait la veste et on avait une veste en velours qui du coup elle prenait l'odeur de la fumée du cigare à la place que la veste qui emportait avant.
Les Anglais font encore la différence
ouais.
entre un smoking et c'est-à-dire, ah oui, comment ils appellent ça?
Il y a le tuxedo?
Non, le tuxedo, c'est les Américains, ils appellent, c'est les Américains qui
C'est ça.
appellent ça.
Parce qu'il y a plusieurs noms pour dire la même chose. Hein.
Il y a
Oui.
la dinner jacket,
Dinner
les dinner
jacket.
jacket et les
Les
smoking
smoking
jacket.
jackets.
Voilà. C'est pour nous, qu'on n'est pas anglais, et j'ai dit bien nous en général, c'est la même chose. Pour les Anglais d'une certaine période, c'est des choses complètement différentes, au point où la smoking jacket pouvait être confectionnée en tant que costume complet. Que moi, j'en ai plusieurs à la maison, d'époque aussi. C'est des trois pièces en velours. Ça peut être vert sombre, vert bouteille ou bordeaux, noir, voilà. Et on les portait à la maison pour fumer si on ne devait pas forcément recevoir des hôtes importants. Ils sont magnifiques.
Et les revers, ils pouvaient être en velours aussi, ou sinon en satin
Ou en
de
satin
soie, ou
aussi,
en
oui.
satin capitonné de soie. Du coup, matelassé.
Ouais.
Du coup, on a tout cette... Ouais.
La grande innovation au XXe siècle, c'est l'apparition du prêt-à-porter, donc l'industrialisation du vêtement, ce qui permet à la fois une baisse des prix très importante, parce que le vêtement coûtait extrêmement cher, donc les populations plus modestes avaient soit très très peu de vêtements, soit des vêtements rapiécés et recousus, puis des vêtements qui sont aussi plus faciles à porter, notamment au niveau des cols, on a plus besoin de faire des amidonnages, c'était long et compliqué. Donc ça, cette apparition du prêt-à-porter dans les années 1950-1970, ça change aussi beaucoup la manière de concevoir le vêtement, de le penser et de le porter.
Bah, la première fois qu'il arrive, corrige-moi si je me trompe, mais c'est déjà avant, à l'après.
C'est les Américains qui ont commencé à faire des vêtements en série, en usine, et c'est autour de 1850, même 1840.
Ah oui, donc un siècle avant.
Bah, c'est pour
C'est
ça qu'on a entendu
la
qu'il y a
révolution
eu...
industrielle, ça amène ça aussi.
Ouais.
On dit par exemple c'est qui a tué le premier classique vestimentaire. C'était du coup l'arrivée de la bourgeoisie qui s'habillait pour aller au bureau tous en noir et qui du coup pouvaient profiter du coup de cette première costume fait en série qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir millions de différences mais du coup ils achetaient directement le costume dans les grands
C'est
magasins.
très protestant comme éthique, du coup très américaine, mais forcément ça va vite en Angleterre également. C'est l'idée de garder une certaine dignité sans pourtant en faire trop, parce qu'en faire trop, ça c'est propre à l'aristocratie. Et l'aristocratie, par la bourgeoisie de cette époque, ils sont jugés tape à l'œil, ils sont jugés vulgaires, ils sont jugés trop excessifs. La reproduction industrielle du vêtement va avec une certaine façon de penser aussi. C'est-à-dire une rationalisation de la pensée en général, qu'il soit politique ou sociale, et de la beauté du garde-robe.
Oui, si avant l'homme il voulait exprimer aussi sa richesse et son pouvoir sur ce qu'il portait, bah, à cette époque-là, il va plutôt l'exprimer sur ce qu'il va porter sa femme, du coup les bijoux qu'il lui il peut lui acheter, les grands vêtements, robes de soir qu'il peut lui acheter, et alors qu'il lui restera plutôt habillé en noir assez anonyme, classique.
Pendant. Oui, c'est Baudelaire lui-même, il s'en plaignait tout en étant content de dire j'aimais bien un deuil permanent pour une époque qui est en deuil permanent, parce que c'était tout le monde était en noir. Les seuls qui commencent à critiquer un peu cette deuil permanente, c'est Oscar Wilde, qui met du parme, du rose. Ça dure
Parce
pas
qu'on voit jusqu'à
longtemps.
la Révolution française, le vêtement masculin est extrêmement coloré. Il y a du bleu, il y a du rose, il y a du vert, il n'y a quasiment pas de
Exactement.
noir.
C'est
Oui.
exact. Les
Exact.
noirs étaient réservés à la cour de Versailles notamment, étaient réservés à la bourgeoisie qui s'occupait de l'administration. Donc, et aux prêtres. C'était une espèce d'uniforme imposé par les lois somptuaires, on dit
C'est ça,
ça en
somptuaire,
français,
ça, ouais.
loi somptuaire, pour faire en sorte de différencier la bourgeoisie qui travaille pour le roi. De l'aristocratie qui ne travaille pas, mais qui est quand même là pour le roi. Les grands changements, c'est, enfin, disons que comment on dit, ce n'est pas que la Révolution française qui fait en sorte que les choses bousculent du côté noir de la force. Il y a aussi ce qu'on appelle les grands renoncements, et cela vient de l'Angleterre. C'est une mode pour les appareils, disons, simples, pour la redécouverte de la Grèce antique. Et en général, du coup, tout ce qui est près du corps est le plus simple possible. Brumel, qui est considéré un des premiers indices.
Tout là derrière,
c'est tout. Voilà, on la voit sur la chemise, voilà. Effectivement, en couleur de Joe Brumel.
C'est un des premiers qui lance cette mode de couleur sombre, du pantalon collant, de la veste rembourrée aux bons endroits pour faire croire qu'on a plus ou moins des muscles, comme une statue de la Grèce antique. Et plus la Révolution française, et on sait combien David, le peintre, a poussé pour que la Révolution française se rattache à une tradition ancestrale, chose qui est typique d'ailleurs de, en général, tous les gouvernements plus ou moins autoritaires. Ça a donné lieu en fait à cette bourgeoisie fière d'elle, qui est plus contente d'être belle à l'intérieur, mais pas à l'extérieur.
Si on revient sur l'Italie, traditionnellement, on fait une distinction entre le nord et le sud dans le style napolitain et puis un style qui est peut-être plus romain ou milanais. Est-ce que ça a une raison d'être, cette distinction?
Oui, ça existe effectivement encore un peu cette distinction, même si maintenant c'est pas tout à fait pareil. C'est sûr qu'à Naples, on va retrouver une manière de construire le vêtement qui est beaucoup plus léger, avec beaucoup moins d'étoiles à l'intérieur et avec beaucoup moins de précision dans le point et dans la confection. La façon de la napolitaine, c'est une façon qui laisse libre le vêtement de bouger, de plier, de respirer et de bouger avec nos mouvements, effectivement. Du coup, on va avoir une épaulette, on va pas avoir une épaulette, on va avoir une tête de manche complètement vide qui ça s'adapte à notre structure musculaire. Bref, un costume qu'on peut porter même en faisant du jogging. Alors qui, dans le nord de l'Italie, à Milan, on va avoir quelque chose qui est légèrement plus structuré, qui effectivement, il va montrer qui ont fait du business, qui ont travaillé, qui ont un pouvoir industriel. Qui du coup, ça va être ça, plutôt la fierté de Milan. L'école romaine.
Les Milanais, ils sont convaincus de s'habiller comme des Anglais la plupart des temps.
Oui, mais un peu moins déstructuré.
Ouais. Non, mais si on te demande un Milanais, il dit, ah, mais moi, c'est que l'école anglaise.
Après, juste pour expliquer cette phrase, alors si l'école italienne elle est plutôt déstructurée, l'école anglaise elle est plutôt structurée. Donc, on va avoir dans les vestes en construction avec un canvas beaucoup plus épais, avec une épaulette très haute. 1,5 cm et demi, 2 cm, si on regarde les tailleurs anglais de Savile Row, par exemple Edward Sexton, on a des épaulettes très très grandes avec des doubles cigarettes. La cigarette, c'est le rembourrage qu'ils ont mis à la fin de
À
la
l'épaule.
manche. Et qui, du coup, on a l'impression de porter des armures plutôt plus que de costumes. Et du coup, il y a vraiment cette vraie différence entre Angleterre et Italie, qui la France, du coup, elle va prendre un peu au milieu comme style. Elle va être ni trop déstructurée, ni trop structurée. Elle va se placer un peu au milieu comme style.
J'aime bien y voir des parallèles avec les soucis religieux de chacun de ces cultures. Parce que c'est vrai que dans le Nord, étant protestant, les gens ont besoin de se protéger, en fait, et d'avoir une forme extérieure qui soit dure, qui soit confiante, fiable, pendant que dans le Sud, ils sont catholiques, tout est pardonnable.
Alors, on va terminer par la chemise que j'ai en face de moi, parce que c'est une de vos spécialités ou marques de fabrique. Donc, c'est une chemise avec le dessin, là, c'est Brumel, entièrement imprimé. C'est imprimé sur soie, c'est ça?
Imprimé sur soi, exactement.
Alors, donc, la difficulté est donc que le dessin soit parfaitement au milieu de la chemise. Donc, on a le visage au milieu du boutonnage et puis les mains qui sont au niveau des manches. Comment vous faites l'impression sur soie et après la découpe, puisque il y a l'impression sur le tissu et après c'est monté en chemise.
Oui, effectivement, c'est un travail assez compliqué. Et il y a de moins en moins d'ailleurs des usines en Italie qui vont dire oui à un découpe comme ça.
Ah, c'est
Alors
une
déjà,
tragédie.
il y a un travail fait à partir du dessin, qui du coup, dès qu'il y a une fois que le dessin il a été scannerisé, le travail va être de placer le dessin sur le patronage à l'ordinateur, en particulier sur Photoshop, pour faire ci, qui du coup la découpe, dès qu'il est coupé à la main, et avec la couture, elle va effectivement bien rejoindre la tête de notre personnage. En particulier, cette chemise, c'est aussi notre première chemise. C'est la première chemise qu'on a fait imprimer et là on la ressort parce qu'on fête notre 5 ans de marque, on
existence.
va dire.
Alors, on mettra les photos sur le site de Conflit parce que comme ça vous verrez ce que c'est et ça sera évidemment mieux d'avoir à la fois les explications et l'image. Ce qui est, je
Exactement.
trouve très intéressant, c'est que vous êtes à la fois classique dans le style, dans le dessin, et en même temps, pour aller ce type de chemise, il faut avoir des outils extrêmement modernes. Notamment, vous évoquiez le travail sur ordinateur ou la découpe, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques décennies.
Alors, on aurait pu la faire dans une manière plus longue. Même la méthode d'impression, elle a effectivement changé. Aujourd'hui, on peut imprimer la soie avec des grands imprimantes. Il faut imaginer des imprimantes comme on a à la maison, hein, comme avec le papier qui sort, seulement qui sont beaucoup plus grandes et à la place qui est sortie du papier, il sort du tissu. Et alors, celle-là, c'est l'impression digitale. Avec cette impression digitale, on peut même imprimer très peu de mètres de tissu et surtout, on peut imprimer avec toutes les couleurs qui on veut. La méthode avant celle-là, c'était une méthode plus similaire, si on veut, à la
Sérigraphie.
similaire à la sérigraphie. En fait, on a un cadre pour chaque couleur. Et cette cadre, il va passer sur la longueur du tissu. Du coup, normalement, c'est 50 mètres de tissu.
C'est comme du pochoir,
Oui.
on dit
En
ça aussi.
faisant chaque couleur, en attendant que chaque couleur il sèche pour passer aux deuxièmes couleurs. Du coup, c'est une technique qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et aussi, il faut faire des quantités de production assez grandes. Par exemple, les foulards Hermès, certains des foulards Hermès, ils sont encore imprimés comme ça. Et c'est pour ça que parfois on a des prix plutôt élevés pour cette typologie d'impression. Quelle est la différence? L'impression en digital, on va voir une légère différence de couleur entre le devant du tissu et le derrière du tissu. Alors qu'il l'imprimait à l'ancienne, on va voir pas de différence parce que la pénétration du couleur, elle est majeure.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au micro de Conflit. Pour nos auditeurs, donc, vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflit à la fois quelques photos, comme ça vous verrez le travail effectué, puis également un lien vers le site internet si vous voulez découvrir davantage, et puis également les liens vers les deux ouvrages que vous avez publiés. Mais il y en a un qui va être réimprimé ou republié puisqu'il sera un petit peu amélioré, donc il reparaît dans 2 ans, c'est ça? Ou
Dans
dans
un
un an
an,
et demi?
dans un an.
Voilà, dans un an. C'était de dandisme ou du dandisme?
C'est dandysme au pluriel.
Dandisme
Celui-là,
au
il va être
pluriel.
réimprimé dans une nouvelle version plus longue, tandis que vous trouvez encore en commerce, l'autre aussi d'ailleurs, vous trouvez encore du monocle et d'autres accessoires masculins disparus chez les Chats Rouges éditeurs.
Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine.